C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Alfred Jarry, 1873-1907. Dramaturge, poète, romancier, français, homosexuel. Œuvre Ubu Roi, 1896. Ubu Enchaîné, 1900. Almanach du Père Ubu Illustré, 1901. Ubu sur la butte et Ubu Cocu, posthume en 1944. Seul Ubu Roi a été joué du vivant Jarry par la troupe du théâtre de l'œuvre. Personnage, Monsieur Ubu, roi, puis ancien roi de Pologne et d'Aragon, comte de Mondragon, comte de Sandomir, marquis de Saint-Grégeois, puis esclave. Adaptation, entre autres, Ubu Enchaîné, téléfilm de Jean-Christophe Averty en 1971. Une fois morts, les Anatoles France sont jetés comme une truite en gelée avariée, alors que les Alfred Jarry amusent. Il faut qu'ils soient morts. La bienséance, cet écran posé devant les artistes vivants, empêche qu'ils deviennent publics s'ils ne la respectent pas assez. Le seul moyen pour eux de ne pas être malheureux consiste à l'amadouer sans compromettre leur énergie. Il faut qu'il y ait une part de folie dans les livres, il n'y a que cela qui les perpétue, la sagesse fait fuir les anges. Ubu Roi, c'est du Shakespeare en marionnette. Alfred Jarry en a d'ailleurs donné une version en marionnette dessinée par Pierre Bonnard. Lui-même a inventé des costumes mi-symboliques, mi-bouffons, et tout le monde connaît, grâce à ses croquis, la physionomie du père Ubu. C'est un haricot, c'est une idole. Ubu a quelque chose d'un Falstaff pleutre qui serait devenu roi. Sa devise pourrait être « cupidité, vantardise et lâcheté ». Quant à sa femme, qui le vole et tente de le trahir, c'est une Lady Macbeth boueuse. La référence à Shakespeare est si évidente que, à la fin du Buroi, Ubu et sa femme arrivent près d'un château, et quel est-il ? Le château d'Elseneur. À sa première représentation, Ubu Roi a choqué les convenables. Cela l'a peut-être aidé. Qui sait si, sans le scandale, la pièce ne serait pas restée un objet baroque, apprécié des seuls connaisseurs, à l'instar des géniales moralités légendaires de Jules Laforgue. Comme on sait, Ubu dit « merde ». Lors de la première représentation, un spectateur s'est levé et a crié « mangre ». Bon, les scandalisés, qui ne sont jamais bien malins, ont pris les répliques au pied de la lettre et cru que Jarry pensait comme Ubu. Ou pas. Ces convenables sont toujours du côté du pouvoir et ils avaient compris qu'Ubu Roi est une pièce contre le pouvoir. Chose qu'ils n'admettent que s'il y a un personnage hypocrite en plus. Or, Ubu Roi ne contient pas de petite pauvresse attendrissante. C'est la bacchanale de la tyrannie. Qui est Ubu ? Pour en parler, je reçois Paul Edwards, maître de conférence à l'Université de Paris au LARCA CNRS, qui a édité, entre autres en collaboration, les œuvres complètes de Jarry au classique Garnier. Paul Edwards, je l'ai dit, le père Ubu a une allure bien reconnaissable. Dans la préface à Ubu Cocu, Jarry dit « Il a la face porcine, le nez semblable à la mâchoire supérieure du crocodile, et l'ensemble de son caparaçonnage en carton le fait en tout le frère de la bête marine la plus esthétiquement horrible, la limule. »
La limule, oui, c'est tout ce qu'il y a de plus horrible en être sous-marin. C'est un être qui a été dessiné de plusieurs manières. On le voit comme un amalgame de différentes créatures répulsives. C'est également un dessin schématique. Ça peut être une simple tête piriforme qui ressemble à cette poire de Philippon dessinant Louis-Philippe. En dessous, une robe en laine qui recouvre un énorme bedon. Ensuite, de petites pattes, de petits bras, un bâton en physique bien enfoncé dans la poche, ou un croc à finance, et la poche à finance qui suit. Donc très schématique, très facile à dessiner, mais ça peut être également tout simplement le bourgeois, c'est-à-dire une redingote noire, un chapeau melon, parapluie, gros bedon. Vous avez deux manières de le dessiner, caricatural, plus bourgeois, voire même caragueuse, car Jarry l'a dessiné avec un bras avec 4 ou 5 coudes, c'est la silhouette de caragueuse, donc on est dans le polichinelle, on est dans les marionnettes.
En tout cas, Jarry dit, et là c'est dans la présentation du Buroi, c'est très simple, il est ignoble.
Oui, il est ignoble, il est couard, il ne dit pas de mots d'esprit, même si on trouve la pièce drôle. Il n'est pas lui-même intelligent, même s'il est basé sur un ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé en physique. Je parle là de Félix Frédéric Hébert, le professeur de physique-chimie au lycée de Rennes, qui a servi de modèle à ses potaches au lycée et qui ont construit toute une œuvre potachique autour de sa personne.
Père Ubu, c'est une appellation paysanne, Père Ubu, ou en tout cas toute petite bourgeoise. Est-ce qu'on sait comment Jarry a formé le nom ?
On pense, ou du moins c'est Noël Arnaud qui a émis l'hypothèse, que le père Hébert est devenu le père Ubu tout simplement à cause d'un rime. C'est-à-dire on avait le rime en U et ça a donné le père Ubu. On avait Ubon, Ubonce, différentes formes qui commençaient par Ub. Les Ub, c'est les deux Ubu, mère et père. Et pour les facilités de la rime, on a Ubu.
Dites-moi, pour ceux qui parlent le plus extrême des hasards, ne le sauraient pas, ce qui se passe dans Uburoi.
Ce qui se passe, c'est un être couard et lâche et vil, poussé par sa femme, sorte de Lady Macbeth, va saisir le trône, tuer le roi, et ensuite, bien sûr, il se fait buter hors du pays, mais il est increvable, atemporel, donc il va aller sévir ailleurs. Donc il va prendre la couronne de Pologne, tout simplement parce qu'à l'époque, la Pologne n'existait pas, c'est nulle part. Et il va aller par la suite en France.
Et il déclare, il y a une guerre avec les Russes dans le cours de la pièce. Il aussi, il y a beaucoup de péripéties. C'est pas...
La Russie était à la mode en 96. Il y a le tsar, je pense, lui-même qui va visiter la France en 96. Il y a un accord passé entre la France et la Russie. Donc tout le monde est russophile.
Ah, pardonnez-moi, je ne suis pas sûr que tout le monde ait été russophile. Et surtout dans les cercles du Mercure de France autour de Jarry, il y avait beaucoup de républicains qui étaient anti-russes parce que la Russie... Si c'était un régime archaïque et réactionnaire. D'ailleurs, est-ce qu'on sait ce que Jarry pensait de la Russie ? Est-ce qu'il a laissé des lettres ? Est-ce qu'il avait la moindre opinion politique, d'ailleurs, là-dessus ?
La moindre opinion politique à cette époque-là, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Ça commence à poindre au moment où il écrit ses spéculations. Donc là, c'est plutôt vers 1901. Il va écrire pour le Canard sauvage. Et là, le ton est ironique. Et donc, on peut... penser qu'il avait une pensée anarchiste ou de gauche, mais c'est très difficile d'affirmer cela vu comment il va basculer dans l'antisémitisme et dans une pensée réactionnaire, catholique, extrême, à la toute fin de sa vie.
Ça s'est produit comment, ça ?
Sorte de désespoir d'être totalement marginalisé dans la société. Il s'accroche à ce qu'il peut. C'est difficile pour moi d'essayer d'imaginer
sa
psychologie.
Alors, pour en revenir à Ubu, donc à la toute fin de la pièce, il faut se dire que Ubu est battu par les Russes et qu'il s'est séparé de sa femme. La mère Ubu s'enfuit, elle se retrouve près d'Ubu endormie comme Bose, qui croit que c'est une apparition. Et ils reviennent en France, car on suppose à peu près qu'ils sont français. En tout cas, ils reviennent en France. C'est une pièce où on se dit ce qu'on appelle... en français, des vérités, c'est-à-dire des horreurs. Le père Ubu et la mère Ubu, tout en étant très proches, n'arrêtent pas de s'injurier, mais presque comme des bêtes.
Oui, ils se chamaillent, se déchirent. Enfin, ce sont des marionnettes, donc ils peuvent s'arracher les bras, parce qu'on sait très bien que ces bras vont être recousus par la suite. Donc ils s'attaquent, mais ça fait partie de leur relation. C'est comme Punch and Judy, le polichinelle anglais.
La mère Ubu dit d'Ubu... comme il est beau avec son casque et sa cuirasse, on dirait une citrouille armée. Et alors ça, je trouve ça mieux qu'amusant, je trouve ça révélateur, parce que ce sont le père et la mère Ubu des gens qui veulent imposer leurs critères. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas du tout une intention sarcastique dans la mère Ubu là-dedans. Pour la mère Ubu, rien n'est plus beau qu'une citrouille, et elle impose naturellement cette comparaison. C'est le début d'un vocabulaire tyrannique, vous ne pensez pas ?
Vocabulaire tyrannique parce que ça, c'est un sens privé qui est appliqué comme si c'était un sens universel, oui, si l'on veut.
Il est d'ailleurs possible qu'avec avec cette citrouille, Jarry ait pensé au pamphlet, vous savez, qu'on attribue à Sénèque sur l'empereur Claude, ou la citrouillification du divin Claude, où il se moque de... Et comme Jarry avait fait des études, il n'est pas impossible qu'il ait connu ça, non ?
Oui, il va écrire... Messaline par la suite. Donc, il connaît très bien ces sources-là. Oui, le roi, si, je ne me souviens pas si c'était Claude qui devient une espèce de poireau doré. Mais oui, il connaît cette culture latine, il connaît la culture grecque, il revient dessus. Est-ce qu'il était féru de cela dans les années 90, je ne sais pas, parce que ça va venir plus tôt, tardivement, quand il va aller à la Bibliothèque nationale pour lire tout sur la vie de Messaline et la vie de Claude.
Alors, pour en rester sur le langage du père Ubu, il dit merde en particulier, ça vient peut-être du fait qu'il était très difficile de dire sur une scène en France en 1896 merde, mais c'est là aussi pour signaler une torsion du langage. D'ailleurs, quand il dit les finances, il y a quelque chose de potage PHY, N-A-N-C-E, c'est aussi une manière de tordre le langage. Et d'ailleurs, le mot croc en particulier, dit le croc à finance pour les impôts, ça signale une violence aussi du langage.
Oui, il fait violence à la langue française, mais en même temps, certains de ces mots ne sont pas des inventions. Ce sont des emprunts à Rabelais ou des mélanges de mots empruntés à Rabelais et à d'autres. Ce sont parfois des mots qu'il n'a pas inventés parce que ça vient du cycle Ubu potachique. Tout ce qui était écrit contre le professeur de physique chimie au lycée de Rennes, même décervelé, ce mot de décervelé, ce n'est pas une invention de Jarry. Quant au mot merdre, rajouté à un R, c'est vrai que ça permet au mot d'être prononcé avec plus d'entrain.
Il en va même jusqu'à ironiser en employant un mélange de parler bébé et de Galimatia qu'on trouve parfois dans les opéras de Rossini, Jitoutou au moyen du croc à merdre et du couteau à figure. Et en fait, ça n'est pas du tout drôle, c'est effrayant. On dirait Donald Trump qui parle.
Oui, alors d'un côté vous avez Punch et de l'autre côté vous avez un phénomène tout récent, du moins pour ce qui est de l'Angleterre et de l'Amérique, les États-Unis, où on a un chef d'État qui s'exprime mal, enfin très mal, non seulement, pas simplement les idées qui sont choquantes, parfois qui relèvent d'un vocabulaire des suprématistes blancs, pour ce qui est de Trump, quand il parle des ferocious dogs, mais des personnes qui s'expriment très très mal, c'est-à-dire leur langue est balbutiante, incorrect, et les idées sont simplistes.
En tout cas, il y a un point de comparaison possible encore, c'est que Ubu a un complexe de l'élite. Il déteste les nobles, il les élimine. Apportez-moi le bouquin à nobles avant de les exterminer. Il y a quelque chose de revanchard.
Alors, il est vrai qu'il va s'emparer de tout. Il veut tout manger et il veut tout l'argent du monde. Tout le monde qui a de l'argent, il va les tuer tout simplement pour avoir leur argent. Ou les tuder, pour utiliser le mot des enfants, parce que le vocabulaire est très enfantin. De là, on peut imaginer que la scène peut être utilisée comme satire politique. C'est-à-dire qu'on peut monter la scène et sans même changer quoi que ce soit du texte, si on est dans un pays qui a un dictateur ou quelqu'un qui nous rappelle des dictateurs, la pièce tout seul va nous rappeler des faits commis par l'État.
Est-ce que d'ailleurs, c'est une chose qui m'a toujours frappé, par exemple avec le Tartuffe de Molière qui a été interdit en France sous Vichy, est-ce que Ubu a été interdit de représentation à certains moments en France, peut-être sous Vichy, et est-ce qu'à l'étranger, on sait si par exemple il a été impossible de monter, en Russie qui sait, Ubu roi ou une des pièces du cycle d'Ubu?
Curieusement, les Ubu qui ont été montés avec une forte intention évidente politique, par exemple en 65 à Prague, ces mises en scène ont au contraire bien circulé, même à l'international, pour le prestige du pays et pour montrer que la censure n'existait pas. Donc non, j'ai pas d'exemple de pièces censurées. En revanche, on censure les marionnettes, ça c'est un constant.
Comment ça, hein?
Les marionnettes sont beaucoup plus souvent censurées que les acteurs. Vive la France, montée par Franck Nohain, ben les marionnettes ont été saisies par les gendarmes français. On imagine l'interrogatoire avec ces marionnettes en bois.
Alors il faut dire que Franck Nohain était à peu près de la même époque que Jarry, et voilà. C'était pour ceux les plus anciens d'entre nous, c'était un poète et le père de Jean Nohain, qui était un animateur de télévision très célèbre en France dans les années 60.
Voilà, donc, et Franck Nohain était l'ami d'Alfred Jarry. Ils ont collaboré ensemble pour mettre en scène des Ubu de Jarry. Ils ont également collaboré pour la pièce « Vive la France » qui a été trouvée tout récemment dans les papiers de Terrasse.
Qui est une pièce de Jarry ?
Qui est une pièce de Franck Nohain. De Franck Nohain, mais jouée par Jarry.
Et donc, les marionnettes ont été interdites ?
Saisies. Et ensuite, une fois qu'ils ont vu que ça ne tirait pas à conséquence, la pièce a pu avoir lieu, je pense, mais en privé uniquement, si je me souviens bien. Mais pareil, les marionnettes de Hitler et Mussolini, qui ont été photographiées par Bill Brandt pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les spectacles pour les enfants, jouées dans les jardins publics, ces photographies-là, pareillement, ont été censurées, mal vues, parce que ça présentait une histoire de la guerre et de la résistance qui n'était pas suffisamment sérieuse et qui n'allait pas dans le sens du discours national.
Nous allons maintenant entendre Roland Topor parler du Burois, cet extrait d'Une vie, une œuvre, diffusé sur France Culture le 12 janvier 2003.
Disons que Burois, ça comptait beaucoup pour moi, puisque ça a certainement décidé du fait que je rate mon bac, par exemple, et que à partir de la troisième, j'avais 14 ans quand un ami est arrivé en disant « merde », ce qui m'a complètement scié. J'étais béat d'admiration de pouvoir renouveler un mot qui était trop usé. Et alors, donc, j'ai découvert Uburois quand je devais avoir 13-14 ans. Dans Ubu, la part que j'aime beaucoup, c'est que c'est très viscéral. C'est très viscéral, c'est très lié au corps. Lié au corps, lié au sang, à la merde. Et c'est pas pour rien, parce que je crois que le caractère d'Ubu n'est pas qu'un caractère politique, la satire d'un tyran, ou de cette volonté de tyrannie humaine, je crois que, ou de la servitude volontaire des autres, je crois que c'est lié à l'enfance, au comportement du bébé, par exemple. Il crie quand il est mouillé, et quand il y a des choses qu'il aime, il tend la main pour le prendre un peu plus tard à la matière. Quand il ira au square, il s'emparera des jouets de ses petits amis, et puis quand ils diront, mais il est à moi ce jouet, eh ben, pof, il cogne pour garder le jouet. Donc, je veux dire, il a ce côté-là qui est inhérent, je crois, à l'enfant humain, qui est de s'approprier et de développer ses désirs. Par la suite, devenu un peu plus grand, on jouera avec lui pour lui faire croire qu'il a des désirs qu'il n'a pas, et puis lui dire que les désirs qu'il a, ils sont faux. Et on en fera un parfait consommateur, c'est-à-dire un parfait veau.
Paul Edwards, depuis le début de ce personnage en personne, nous parlons d'Ubu en nous fondant sur Uburois, la pièce de 1896, et la seule qui était montée du vivant de Jarry. Il y a d'autres Ubu dans le cycle d'Ubu, Ubu cocu, Ubu sur la butte. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est plus léger, disons, que Uburois. En revanche, Ubu enchaîné me semble quasiment du niveau de Uburois. C'est une pièce où Ubu se fait esclave.
Oui, c'est une inversion de la pièce Uburois. Donc, tout sera à l'envers, au lieu de vouloir le pouvoir et de prendre le pouvoir, il va devenir esclave, serviteur. Mais il va forcer sa personne sur les autres, il va s'imposer chez les autres, il va cirer les bottes et les pieds des autres, que les autres ne le veuillent ou pas.
C'est si Uburois est une pièce sur le pouvoir, on pourrait dire que Ubu enchaîné est une pièce sur la liberté. Et il y a là un groupe, celui des trois hommes libres, qui chantent sans arrêt qu'ils sont libres. Et il n'y a pas plus soumis qu'eux, puisque, entre autres, ils marchent sous les ordres d'un caporal en disant N'oublions pas que notre devoir, c'est d'être libre.
Oui, je pense d'ailleurs que c'est la pièce, la scène la plus inquiétante de tout le cycle Ubu.
Ah bon ?
Cette scène avec les hommes libres, ils sont appelés comme ça, les hommes libres, et on voit qu'ils ne sont pas libres du tout parce que la liberté qui leur est donnée est totalement artificielle. Ils doivent porter armes, mais pas tous en même temps, c'est-à-dire le premier à un, le deuxième à deux, le troisième à trois. Donc ils sont soumis à un regard et une pression totale. Ils ne doivent pas mettre un seul pied de travers. Donc, ils doivent désobéir, mais selon une réglementation beaucoup plus stricte que s'il fallait tout simplement obéir, comme un soldat.
À propos de soldats, est-ce que vous ne diriez pas que Ubu est militariste ? Parce qu'au fond, il crie « Vive l'armerdre !» Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi l'époque où on chantait « On n'est pas là pour se faire emmerder, on est là pour voir le défilé ». Donc il y avait un côté familier de l'armée qui pouvait la faire traiter de manière précisément très familière.
Oui, il est Ubu dans Ubu enchaîné et soldat, ancien soldat reconnu comme tel. Il a une autorité qui découle de ce fait et... Jarry avait une opinion, je dirais, ambiguë envers l'armée, parce que son séjour à l'armée s'est assez mal passé. Il a dû...
Pour son service militaire.
Voilà, son service militaire, il s'en est sorti par une carotte, comme on dit. Donc il n'a pas fait le service en entier.
De quelle façon ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oh, il s'est empoisonné. Il y a différents poisons qu'on peut prendre qui changent la couleur de la peau. Et voilà, vous êtes renvoyé. Donc... Il s'en est sorti, il voulait écrire, il ne voulait pas perdre son temps, donc il est parti. Il dit avoir retenu certains principes intéressants de l'armée, mais dans ses écrits, on a plutôt une opinion négative. Donc il y a, dans Les jours et les nuits, on a un roman qui est contre l'armée, mais dans La Dragonne, on a parfois une impression que l'ordre imposé peut avoir quelque chose de bénéfique. Je m'exprime très mal, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement dans l'attitude de Jarry qui va de plus en plus vers l'armée.
En tout cas, dans la pièce de Jarry, la justice n'est pas beaucoup mieux servie que l'armée. Il y a une scène de parodie de procès où Ubu est jugé. L'avocat général le traite de monstre, déjà souillé de tant de crimes, alors que son défenseur le qualifie d'honnête homme à l'irréprochable passé. Et on voit bien que là, Jarry se moque aussi du mécanisme de la justice.
Oui, il se moque de tout ce qui est convention. Et je pense que c'est en fait ça la grande leçon de tout le cycle Ubu, c'est que les pièces du cycle, surtout Ubu Roi, permettent de mettre en cause dans un premier temps toutes les us et coutumes de la théâtralité, du théâtre, de la scène, que ce soit le jeu d'acteur ou les accessoires, le décor. Vous pouvez tout bazarder, remplacer, vous pouvez tout mettre en cause, vous pouvez réinventer le théâtre, et beaucoup de metteurs en scène l'ont fait et continuent à le faire de manière renouvelée, permanente. Donc, et à partir de cette mise en cause des us et coutumes du théâtre, on peut imaginer une mise en cause du fonctionnement de la société et voir que tout est eu et coutume.
Est-ce qu'en réalité, vous savez, il y a une phrase de Pasolini que je vais citer de mémoire qui dit « Il n'y a pas de plus grand anarchisme que celui du pouvoir ». Est-ce que ça n'est pas ça que voudrait dire Ubu, c'est-à-dire qu'il critique l'anarchisme suprême qui est exprimé par le pouvoir politique et par les institutions ? Et je dis ça aussi parce que dans un autre écrit sur Ubu, les paralipomènes d'Ubu, qui est la préface d'Ubu Cocu, Jarry dit c'est l'anarchiste parfait.
Oui, Ubu, c'est l'anarchiste parfait, donc absolu, donc impossible. Parce que son anarchie n'admet que lui-même, c'est tout part de lui-même. Il n'y a que lui qui va, c'est après moi le déluge.
Dans Ubu Cocu, c'est là que l'on trouve pour la première fois, sauf erreur, le mot pataphysique et le mot pataphysicien. Et la définition y est donnée. La pataphysique est une science que nous avons inventée, dont le besoin se faisait généralement sentir. Et c'est Ubu qui parle avec ce nous de majesté. Comme tous les barbares, il veut se donner le prestige d'avoir inventé une science. Est-ce que cette pataphysique a le moindre sens ?
Ah, alors là... Il faut regarder un petit peu l'histoire du mot et de son usage. C'est-à-dire au début, c'est un mot inventé par les lycéens de Rennes. Donc on ne sait pas qui a inventé le mot. Ça vient des chahuts qu'on orchestrait lors des cours de physique-chimie au lycée de Rennes. Donc lorsque le professeur va dire « Nous savons par notre science en physique », ils vont répondre « Nous savons par notre science en pataphysique ». Et ensuite, on énonce quelque chose de complètement déraisonnable ou selon une logique autre. Par la suite, Jarry s'est emparé du mot pour le mettre en œuvre de manière différente selon les contextes, les œuvres littéraires. Donc, ses écrits sur des observations de notre temps, par exemple, comment fonctionne un autobus, peut être pataphysique parce qu'il va décrire le fonctionnement, mais en mettant le centre d'intérêt ailleurs. C'est-à-dire, ça va être la cinégétique de l'omnibus, des passagers tout simplement qui entrent dans un autobus. Ça va être un autobus qui mange sa pâtée et qui en extrait la partie comestible, c'est-à-dire le cuivre.
De toute façon, il serait illusoire de chercher une très très grande cohérence dans la pensée de Jarry. C'est un génie par certains côtés, mais la cohérence de sa pensée est très aléatoire.
Il y a une cohérence dans la poétique de l'écriture, dans sa poétique. Il y a certaines manières d'écrire qui reviennent. Ils sont complexes, ils sont multiples. Pour moi, c'est un très grand écrivain.
Est-ce que d'une certaine façon, il n'a pas été... il avait une santé mentale un peu précaire. Est-ce qu'il n'a pas été mangé par son propre personnage? On sait qu'il y a des lettres à Rachilde qu'il aimait beaucoup, la femme du patron du Mercure de France, où il signait lui-même Ubu. Alors évidemment, il y a une part de moquerie, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais est-ce qu'à la fin, il n'a pas été aussi dévoré par son personnage?
Je dirais que non, parce que sa fin tragique est due tout simplement à la pauvreté et au fait qu'il était tuberculeux et il buvait trop. Donc voilà pour la déchéance du personnage. Mais pour ce qui est de jouer Ubu, il jouait Ubu devant ses amis. Et on attendait ça de lui. Et aussi, c'était le pauvre qu'on invitait à dîner. Donc il fallait qu'il fasse son intéressant pour justifier sa présence. Ou peut-être qu'on l'a fait sentir cela.
Paul Edwards, que vous a appris le personnage d'Ubu?
Il m'a appris deux choses. La première chose, c'est très personnel. J'ai appris la langue française grâce à Ubu Roy. Donc je me suis penché sur la langue écrite en traduisant Ubu Roy. Quand je voyais dans une note savante, d'une édition savante, que c'était une référence à Racine, je lisais Racine, je lisais Molière, Rabelais. Donc j'apprenais un petit peu l'histoire de la littérature française, la belle écriture. Donc voilà pour le côté personnel. Mais sinon, ce que peut apporter Ubu, et toutes les pièces Ubu, tous les écrits sur Ubu, c'est l'idée qu'on peut tout réinventer, pas simplement le théâtre, mais on peut tout inventer, réinventer du moment qu'on voit que tout est convention. Donc tout est convention sociale, ou tout est socialement déterminé, pour parler comme les sociologues. Tout est à réinventer, même dans la société.
C'était Personnage en personne, le 118e. La semaine prochaine, je parachèverai le diptyque des créatures commençait avec cet Ubu en parlant du personnage de la drag queen Alaska inventé par Justin Honnard.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée d'émission Meryl Moneghetti, prise de son Bernard Lagnel.
De ma vie, le paradis acquis. C'était un grand jeudi. Tous les jours paradis. De l'autre côté.